La manipulation au quotidien. Rien de mieux pour terminer cette première partie et appréhender les mécanismes volontaires et involontaires de la manipulation que deux anecdotes que nous aurions tous pu vivre. En vous plongeant dans le quotidien de Jérôme, je vais vous montrer où se cachent les bonnes et les mauvaises manipulations, comment les déjouer lorsque c'est nécessaire, et vous comprendrez pourquoi Jérôme doit se faire confiance. Cas quotidien numéro 1, pour un simple service. Nous sommes vendredi, et Pierre, un ami de Jérôme, lui a proposé de passer chez lui boire un verre. Jérôme décide d'y aller après sa journée de travail et arrive chez Pierre. La promesse de décompresser un peu en prenant un verre et en discutant de tout et de rien était assez motivante pour faire un détour de quelques kilomètres avant de rentrer chez lui. Dans le cerveau de Jérôme, il y a déjà eu un arbitrage. Jérôme, en fin de semaine, a hâte de rentrer chez lui, fatigué par son travail. Pierre habite dans la direction opposée de chez Jérôme. Inconsciemment, Jérôme a mis en balance l'inconvénient de faire un détour en voiture, de conduire plus longtemps et de dépenser de l'essence, avec le plaisir qu'il aurait de voir son ami et de passer du temps avec lui. D'ailleurs, Pierre n'a pas son permis et comme ils habitent loin l'un de l'autre, il y a fort à parier que Jérôme ait pris en compte le fait que c'est plus simple pour lui de venir plutôt que son ami fasse le trajet jusqu'à chez lui. En permanence, notre esprit pèse des avantages, des inconvénients, pour arbitrer entre plusieurs options. Jérôme, assis, prend un soda en discutant avec Pierre. Il voit qu'il y a des cartons dans la pièce et demande à Pierre ce qu'il fait. Pierre lui explique qu'il va déménager dimanche, que c'est une bonne nouvelle car il a trouvé un appartement bien plus agréable, mais qu'avec la rapidité à laquelle les bons produits sont loués, il a dû se décider très vite. Plus tard dans la conversation, après que Jérôme a parlé de son état de fatigue lié au travail, Pierre lui demande quels sont ses projets pour le week-end. Jérôme lui répond que justement, il a fait en sorte d'être tranquille et n'a rien prévu pour pouvoir se reposer complètement. En réalité, Pierre a une idée précise en tête. Demander à Jérôme de l'aider pour déménager et d'utiliser sa voiture pour ça. Mais en voyant Jérôme se plaindre d'être fatigué, Pierre ne sait plus trop comment lui adresser sa requête. Il y va en tâtonnant et procède à une discrète collecte de données qui commence par vérifier la disponibilité de Jérôme dimanche. Il est impossible pour Jérôme de savoir qu'il y a un autre but derrière. Cela reviendrait à remettre en cause toutes les phrases de ses amis. Il n'a aucune raison de ne pas répondre sincèrement. Pierre prend son courage à deux mains et dit « Écoute, je sais que ça n'est pas le moment pour toi et je m'en veux beaucoup de te demander ça, mais dimanche, je ne pourrai jamais descendre ma machine à laver tout seul. Tu pourrais passer me donner un petit coup de main, c'est vite fait. Là, je te demande parce que j'ai pas le choix. Si jamais tu veux bien, je te rendrai l'appareil, bien sûr. » Pierre a posé la question en présence de Jérôme, ce qui en soi rend le refus de Jérôme plus compliqué que par téléphone ou par SMS. En effet, Pierre se positionne comme une victime avec des phrases comme « Je suis désolé »,« Je m'en veux », »,« Je n'ai pas le choix ». Il minimise sa demande avec des adjectifs comme « Petit coup de main » ou en précisant que c'est rapide. Il met directement Jérôme en position de sauveur. Et en précisant qu'il lui rendra l'appareil, il met en avant le fait qu'en rôle inversé, lui aurait accepté d'aider son ami. L'ensemble manipule les émotions de Jérôme, qui se sent coupable d'avance s'il refuse. Jérôme accepte, finit son verre et rentre chez lui. Dans la voiture, il regrette d'avoir accepté, mais ne se voit pas rappeler Pierre pour refuser maintenant. Il cherche une excuse qui justifierait le fait de ne pas y aller et commence à élaborer des scénarios délirants pour se dédouaner auprès de Pierre. Mais si Jérôme veut refuser, il faut qu'il le fasse frontalement, en disant qu'il a réfléchi et qu'il ne peut pas prendre le risque de ne pas être parfaitement reposé à la fin de son week-end. Mentir reviendrait d'une part à manipuler de la mauvaise manière son ami et à admettre qu'il n'est pas légitime à refuser. Car s'il considère avoir le droit de dire non, il n'a pas à mentir pour se justifier. Le dimanche matin arrive et Jérôme se présente à l'heure convenue devant le studio de Pierre. Après un café et des viennoiseries généreusement préparées par Pierre, les deux amis déplacent la machine à laver jusqu'au rez-de-chaussée. Jérôme demande dans quoi la charger et Pierre répond « Bah, je sais pas trop comment faire. Je vais déménager les cartons en faisant des allers-retours en bus comme j'ai pas le permis. À la limite, on peut utiliser ta voiture pour la machine ? Ça me dépannerait tellement. » Et ça tombe bien, puisque la voiture de Jérôme est à quelques mètres à peine. Quel hasard! La spirale de l'engagement et du « oui » a commencé. Plus Jérôme dit « oui », et plus il va avoir du mal à refuser car il a besoin de cohérence dans son comportement. Il faut également prendre en compte que, comme les demandes sont rajoutées petit à petit, Jérôme ne prend plus en compte la demande dans sa globalité, mais au cas par cas. La charge est progressive. Il trouve presque incohérent de dire non, mais ses émotions lui indiquent que ça n'est pas ce qu'il veut. Inconsciemment, Pierre sait tout ça et met toutes les chances de son côté. Nous retrouvons donc Jérôme et Pierre en voiture. Jérôme conduisant sur le trajet et Pierre lui rappelant à quel point il lui sauve la mise, que c'est agréable de pouvoir compter parmi ses amis quelqu'un d'aussi généreux que lui. Il lui explique d'ailleurs qu'il avait demandé à d'autres amis communs et que personne ne lui avait répondu, qu'on vit une époque vraiment égoïste et que des personnes comme Jérôme se font rares. Une belle leçon de flatterie. Pierre montre du doigt un ennemi commun, les autres, pour mettre en avant que Jérôme est unique, avec de grandes qualités de gentillesse. Il prépare le terrain pour la suite, pour ne pas déménager en bus, ce qui n'a jamais été son projet d'ailleurs. Avec un peu de chance, Jérôme va lui proposer cette solution de lui-même. Pierre dit « En tout cas, merci encore. Avec les cartons qu'on a chargés en même temps que la machine à laver, je vais avoir 10 ou 12 allers-retours en bus et ce sera bon. Je regrette vraiment de ne pas avoir mon permis, parce qu'en un ou deux coups de voiture maximum, j'aurais pu tout emmener. » J'avais omis de vous dire que Jérôme et Pierre sont remontés pour aller chercher des cartons. Tant qu'à emmener la machine à laver, autant remplir la voiture. Pierre vient maintenant de mettre la responsabilité de la suite de sa journée entre les mains de Jérôme. Soit il fait deux allers-retours supplémentaires en voiture, car Pierre sait pertinemment qu'un ne suffira pas, soit il laisse son ami Pierre déménager à coups de deux ou trois cartons en bus en une dizaine d'allers-retours de manière éprouvante. Il devient responsable des difficultés de Pierre. Jérôme répond « Laisse tomber, on va faire les deux allers-retours avec ma voiture et c'est réglé. » Jérôme n'a pas le sourire en disant ça, mais il sait qu'il n'a plus le choix, du moins c'est ce qu'il croit. Il vient donc de terminer cette manipulation en répondant à une requête implicite habilement formulée par Pierre. Il n'a même pas encore pris conscience qu'en plus des allers-retours, il allait devoir descendre les cartons de l'ancien appartement et les monter dans le nouveau. Voilà comment Jérôme est rentré en fin d'après-midi chez lui, en se demandant encore comment il avait pu se faire avoir au point de faire ce déménagement au lieu de se reposer. Terminons cette histoire en se demandant ce que Jérôme aurait pu faire. Ne pas aller boire ce verre vendredi soir ? Non, l'amitié, ça n'est pas se méfier de tout. Il aurait pu tout simplement se donner le droit de refuser à tout moment. Il aurait pu proposer de descendre la machine à laver le vendredi soir pendant qu'il était là. Il aurait pu proposer d'y réfléchir et donner sa réponse plus tard, etc. Ses émotions lui indiquaient en permanence qu'il vivait quelque chose qui n'allait pas. C'est sa peur de l'incohérence, du conflit ou d'être moins aimé de son ami qui lui a fait tout accepter. Dans une situation comme celle-là, il en va de la responsabilité du manipulé de stopper le processus, avec calme et bienveillance, en disant « Je suis désolé, si tu m'avais prévenu plus tôt, j'aurais pu te dire non pour que tu t'organises autrement. Mais pour ce dimanche, ou pour le reste de la journée, j'ai besoin de reprendre des forces pour ma semaine à venir. Veux-tu que je t'aide à réfléchir à une autre solution ? Tu pourrais peut-être décaler ta date de déménagement pour faire appel à des déménageurs. » Quoi qu'il arrive, il n'aurait pas dû laisser quelqu'un, même un ami, prendre le pouvoir sur ses émotions dans le but d'obtenir quelque chose. Cas quotidien numéro 2 pour un simple produit. Le week-end suivant, Jérôme se décide enfin à changer sa télévision fatiguée qui lui a été fidèle une dizaine d'années. Soucieux de son impact environnemental, Jérôme a emmené sa compagne du soir se faire recycler. Sur le retour, il décide de s'arrêter chez une enseigne connue en qui il a confiance. Mais d'où lui vient cette confiance ? Il est intéressant de se dire que Jérôme ne s'oriente pas sur une marque ou un modèle, mais plutôt sur une enseigne de revendeur. Cette enseigne met en avant une communication forte sur la confiance entre elle et ses consommateurs. Les parents de Jérôme allaient déjà là-bas. Une sorte de conditionnement s'est établi au fur et à mesure des années, sans que Jérôme ne s'en rende compte. En rentrant dans le magasin, Jérôme se rend directement au rayon audiovisuel et commence à regarder les téléviseurs. Il a un budget assez précis en tête et regarde les écrans. Il est bluffé par la qualité de certaines images, si belles, si lumineuses. C'est une technique de manipulation assez connue dans le milieu de l'image. Mettre les téléviseurs que l'on souhaite vendre à proximité de téléviseurs plus bas de gamme, où la luminosité et le contraste ont été un peu amoindris dans les réglages. Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois et les téléviseurs vedettes ont l'air d'avoir des performances encore plus stupéfiantes. Une télévision retient l'attention de Jérôme. Elle affiche un prix de 399,99 €. Jérôme sait parfaitement qu'il s'agit d'une technique et comprend tout à fait qu'elle vaut en réalité 400 €. Pourtant, le cerveau de Jérôme va retenir une sensation liée à 300 €. Même si Jérôme a conscience du véritable prix, elle lui semblera plus abordable que si elle était affichée à 401 €, alors qu'il n'y a que 2 € de différence. D'ailleurs, Jérôme avait tablé sur un budget de 350 €. Cet affichage lui donne l'impression d'être toujours dans une fourchette raisonnable au regard de son budget initial. Il est temps d'aller voir un vendeur. Jérôme en aborde un qui lui propose d'aller voir d'autres modèles, mais Jérôme refuse. Il se méfie des vendeurs et veut garder le pouvoir sur sa décision d'achat. Pourtant, Jérôme aurait pu justement être ferme en disant qu'il avait un budget maximum de 350 € et aurait pu demander à un vendeur de lui montrer les modèles de cette gamme pouvant répondre à ses besoins. Il ne faut pas se priver des conseils des professionnels, mais simplement se poser une limite et la respecter. Jérôme suit le vendeur afin d'établir le bon de vente. Le vendeur prend le temps de lui expliquer qu'il y a une bonne offre si Jérôme achète en même temps le système de son proposé en package avec cette télévision. Jérôme doute, l'offre a l'air séduisante, mais elle lui ferait dépenser encore plus. Que faire dans ce cas-là? Il est fort possible que le vendeur soit commissionné, ou bien qu'il ait des objectifs de chiffre à assurer. Quoi qu'il arrive, c'est son métier de vendre autant que possible. Cela ne veut pas dire qu'il ne va pas proposer d'offres intéressantes. Jérôme devrait déjà se renseigner sur le système de son, connaître son prix seul, le comparer à d'autres, et surtout se demander s'il comptait investir un jour dans un tel système. Il n'a d'ailleurs pas pu juger de la qualité sonore de sa future télévision. En clair, si Jérôme se pose la question, il pourrait prendre le temps de reporter son achat. Des offres télévision plus système de son existent toujours. Et si Jérôme décide que c'est l'achat qu'il cherche à faire à compter de maintenant, cela annule sa recherche de télévision seule. Il devrait choisir un nouveau budget et comparer les différentes offres des différentes enseignes. Jérôme refuse finalement l'offre. La télévision qu'il a sélectionnée est déjà en dehors de son budget initial. C'est la raison qu'il invoque pour expliquer son refus au vendeur. Seulement, cet employé n'a que des solutions. Il lui explique qu'en prenant la carte de fidélité du magasin, il peut bénéficier d'un paiement en plusieurs fois via un crédit à la consommation avec leur partenaire bancaire. Incroyable de se dire qu'au départ, Jérôme n'avait qu'un seul besoin. Un deuxième besoin lui a été proposé, ce qui a causé un problème, et le vendeur vient résoudre ce problème. C'est une stratégie manipulatrice classique, où le vendeur semble presque en empathie avec le client. Mais Jérôme ne doit pas souscrire. Il est plus que probable qu'un prêt à sa banque serait plus avantageux que le crédit qui lui est proposé aujourd'hui. Et heureusement, Jérôme refuse. Il va enfin pouvoir régler et récupérer son achat. Le vendeur lui propose également une extension de garantie de 3 ans, en plus de la garantie constructeur. Jérôme se dit qu'il serait dommage effectivement de devoir payer un jour une réparation, surtout qu'il aimerait garder ce nouvel appareil aussi longtemps que le précédent. Mais voilà. Est-ce que Jérôme en a réellement besoin? Le vendeur, là aussi, touche probablement une commission directe sur cette vente. Il va donc jouer sur les peurs de Jérôme et minimiser le prix de l'assurance pour stimuler l'adhésion de Jérôme. Ce qui est amusant, c'est que quelques minutes avant, le vendeur louait la qualité de cette marque de télévision. Jérôme accepte l'extension de garantie après avoir discuté avec le vendeur car il s'inquiète des frais que pourrait lui causer l'usure de son appareil. Dommage, car Jérôme avait été assez agile pour éviter les pièges. Il vient donc de débourser entre 14 et 25% du prix de sa télévision pour une garantie de 5 ans. Seulement, les 2 premières années sont légalement couvertes par le constructeur, donc ce qu'il vient de payer ne concerne que les 3 années supplémentaires. En général, les défauts surviennent au cours des 2 premières années, couvertes par la garantie constructeur, et les pannes liées à l'usure surviennent en général au bout de 5 ans, durée maximale d'extension de garantie proposée par les enseignes. Enfin, si Jérôme avait été attentif, Il se serait rappelé qu'il avait choisi une carte de crédit un peu plus chère il y a quelques années à sa banque, car son conseiller lui avait dit que ça lui octroyait une extension de garantie automatique sur ses achats électroménagers. Espérons que Jérôme s'en souvienne, car la Fédération française des assurances prévoit un délai de renonciation de 14 jours pour ce type d'assurance, et même d'un an sans frais ni pénalité avec remboursement de la période de cotisation non couverte. Ne pas le préciser explicitement est encore une forme de manipulation de l'information. Terminons cette histoire quotidienne pour rappeler que Jérôme n'est ni pire ni meilleur que nous. Dans le magasin, il a même peut-être fait quelques achats impulsifs à la caisse, en faisant la queue, grâce au bac intelligemment disposé le long du parcours client. Il a peut-être été attiré par ce téléviseur grâce à l'esprit d'appartenance d'une marque forte, etc. Dans le commerce, les techniques de manipulation sont partout. Ni bonnes, ni mauvaises, elles servent le but avoué de finaliser la vente. Le seul moyen pour Jérôme de ne pas agir au gré de ses réactions spontanées aurait été de prendre le temps en amont, chez lui, pour se renseigner sur ses besoins réels, son budget réel et le marché actuel des différentes marques, modèles, offres. Il aurait ainsi pu se tenir à une décision mûrement réfléchie.